affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors, nous enregistrons cette émission, il est proprement impossible d'oublier la place singulière qu'occupe le Moyen-Âge dans notre histoire et dans la formation de notre sensibilité. Nous enregistrons en effet le 16 avril et hier soir, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un incendie, suscitant une émotion qui en dit très long sur les liens complexes, tissés d'admiration et parfois de répulsion que nous entretenons avec cette période qui, le temps passant, nous apparaît à la fois étrange et fondatrice. Notre émission de ce jour devrait contribuer à éclairer cette ambivalence de sentiments. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Claude Gauvard, qui a publié voici quelques mois un ouvrage consacré à la condamnation à mort au Moyen-Âge. Un sujet véhiculant bien entendu tout un imaginaire sanguinaire et macabre, mais qu'elle va bien sûr nous aider à compléter. En effet, vous allez découvrir au fil de cette émission et avec moi que, à travers ce sujet de la condamnation à mort, eh bien, nous serons invités à découvrir toute l'évolution des institutions et des mentalités et des pratiques au fil de ces siècles que nous disions donc étranges et fondateurs. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que votre livre a reçu un prix de la part de l'Académie des inscriptions et belles lettres, le prix du budget. Je précise aussi que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous avez bien entendu enseigné l'histoire du Moyen-Âge, et que vous êtes membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France, un autre institut non moins prestigieux. Pour commencer notre entretien, je crois qu'il est quand même nécessaire d'évoquer le drame qui s'est noué hier, d'autant que Notre-Dame, vous nous disiez dans notre conversation préalable à l'émission, Notre-Dame représente un aspect très particulier de la mentalité et de la spiritualité médiévale, tout à fait en lien avec le sujet de votre ouvrage, la question de la condamnation à mort.
Merci beaucoup de m'accueillir dans votre studio et de me donner cette chance de parler à la fois effectivement de ce monument qui est pour moi le monument médiéval que je préfère à Paris et qui me permet aussi de parler de mon livre « Condamné à mort au Moyen-Âge ». Ce monument, on va commencer par là peut-être, ce monument, il est biface. Biface en ce sens qu'il est à la fois trop aimé et mal aimé. Trop aimé, trop de monde pour le visiter sans le voir. Mal aimé, parce que peut-être un peu trop laissé à l'abandon depuis les travaux de Viollet-le-Duc, même s'il y a eu quelques rénovations au cours du XXe siècle. Donc, mal aimé et trop aimé. Mais aussi médiéval et de toujours. C'est-à-dire médiéval dans sa fondation, puisque c'est Maurice de Sully, l'évêque de Paris, en 163, qui décide de la fondation de la cathédrale, à l'imitation de Suger, qui avait déjà érigé la basilique Saint-Denis dès 1140. Donc, vous voyez, le décalage, compétition. Il avait le projet d'étendre la basilique qui existait. D'ailleurs, il est possible que le portail de Sainte-Anne soit antérieur, soit le projet, si vous voulez, de cette première ébauche. Et puis, d'un seul coup, il décide quand même de faire totalement autre chose, de passer au gothique entier. Et on agrandit l'île de la cité pour pouvoir avoir un monument suffisamment long, puisque c'est le plus grand monument qui existe jusqu'à Saint-Pierre de Rome. Donc, on a un projet grandiose, médiéval grandiose, qui subit les affres du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on commence à le délaisser complètement, même si on continue à construire des églises gothiques. l'esprit de la Renaissance considère que ce n'est pas un monument rationnel. Le XVIIIe siècle va encore plus loin, Soufflot quand même fend le tympan du jugement dernier du portail central pour faire passer le dé royal. Sacre de Napoléon y a lieu, mais on cache la misère avec des tentures. Et ensuite, heureusement, si vous voulez, la flèche s'effondre en 1792. La flèche médiévale. Pas sous les révolutionnaires qui ont déjà quand même pas mal fait de choses et qui vont surtout esquinter la façade, les rois de la façade en pensant que ce sont les rois de France, alors que ce sont les rois de Judée, peu importe, le mal est fait, et la flèche s'effondre parce qu'elle n'a pas été entretenue. Arrive la révolution romantique avec Chateaubriand, Mérimée, puis... Mérimée, très important, hein, parce qu'il commande aux monuments historiques, hein, et qui demande un projet à Viollet-le-Duc et Lassus. On est en 1843. On est en 1843, et les travaux commencent. Voilà. Et c'est une cathédrale aussi de Viollet-le-Duc. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que ça, aussi paradoxal que ça puisse être dans la bouche d'une médiéviste, si Viollet-le-Duc n'avait pas été là, que serait-elle devenue ? Et il a l'idée d'une cathédrale idéale. Il veut retourner au Moyen-Âge, c'est vrai. Il a même voulu les élévations à la médiévale. Ça a été fort heureusement abandonné. Et il veut une cathédrale idéale. Et il y a mélangé ce que j'appelle l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire le rire de l'instant et la soif d'éternité. Autrement dit, il a fait, en mettant ses chimères, la cerise en particulier, mais pas seulement, il y en a partout, les gargouilles, il a fait ce que j'appelle la décoration des marges des manuscrits médiévaux, qui est aussi importante que le texte souvent théologique, biblique éventuellement, sacré, qu'ils entourent. Et ces marges contiennent des dessins qui, effectivement, sont des dessins d'humour, très souvent. Des clins d'œil à l'imaginaire, des clins d'œil aussi au temps présent, aux travaux, éventuellement, aux petites gens, parfois, si rares et si rarement représentés.
Alors vous nous disiez aussi que cette cathédrale, on devait la lire, qu'auparavant elle était certainement lue même par le menu peuple qui la visitait, et elle en était compréhensible, et que ce qu'elle disait cette cathédrale, c'est que l'homme est perfectible, qu'il peut s'amender et même trouver sa rédemption.
Absolument. Absolument, et là on rejoint parfaitement
et là, on rejoint le sujet du livre.
Ah bien absolument, parce que si vous voulez, c'est Saint-Augustin. Il faut toujours penser à Saint-Augustin, qui est quand même la base des lectures médiévales. Et Saint-Augustin pense que l'homme est perfectible. Jusqu'au bout, il peut se racheter. Et il ne condamne à mort que les rebelles politiques. Hein, même un hérétique peut se convertir et avoir une rédemption. Or, à Notre-Dame, il y a, si vous voulez, répété plusieurs fois, le miracle de Théophile, qui est d'ailleurs, par ailleurs, vulgarisé par la littérature chez Gauthier de Coincy, par exemple, mais pas seulement. C'est l'histoire de cet officier du VIe siècle qui, n'ayant pas obtenu la charge qu'il voulait, donne son âme au diable, qui lui promet de l'enrichir. Et il a ce remords, et il s'adresse à la Vierge, qui, bien sûr, intervient et déchire le pacte qu'il y ait Théophile au diable. Et Théophile, bien sûr, a été rédempté. Et on a d'autres exemples de la Vierge intervenant. Et, si vous voulez, c'est, bien sûr, le culte de la Vierge est partout dans les cathédrales. Mais à Notre-Dame, il a ce côté rédempteur, peut-être plus fort qu'ailleurs. Et en tout cas, je le lis comme ça. Et la Vierge est est magnifié depuis le portail de Sainte-Anne jusqu'au portail de la Vierge. Et au portail de la Vierge, quand vous irez à Notre-Dame, quand on pourra à nouveau accéder, vous verrez au portail de la Vierge, sur le trumeau, la tentation d'Ève et d'Adam, donc le paradis perdu, qui est une merveille de l'art gothique, aussi probablement par le même sculpteur que celui qui a sculpté Adam, qui est conservé au musée de Cluny. Il faut s'arrêter là, quelques instants. Et quand je disais qu'elle était mal aimée, cette cathédrale, c'est que les gens passent là, devant ce chef-d'œuvre, et ne voient rien.
Écoutez, c'est certain que nos auditeurs ne le verront plus de la même façon lorsqu'ils pourront effectivement y accéder. Cette introduction nous a permis de sentir la sensibilité de l'époque, et notamment du rapport à la mort et la complexité des questions morales et d'une vision de l'homme. C'est certain que ce qui est formidable, j'allais dire, avec un sujet tel que la condamnation à mort, c'est que tout de suite, ça implique beaucoup de choses, et notamment une idée de l'homme. Alors comment... D'abord, peut-être faut-il cerner le phénomène de façon un peu plus prosaïque et même comptable. Quelle est l'ampleur du phénomène? Après tout, ça compte aussi. Le nombre de condamnations à mort, ça nous en dit beaucoup sur une société.
Oui, bien sûr. Alors là, c'est très difficile de répondre parce que les chiffres sont délicats à manier. Moi, je suis arrivée à l'idée que les condamnations à mort étaient beaucoup moins fréquentes qu'on ne l'imagine, parce qu'on en imagine évidemment beaucoup. Je rejoins en cela les chiffres, par exemple, de Nicole Gontier, disant pour le Lyonnais, une tous les 4 ans. C'est une moyenne. À Périgueux, c'est à peu près ce chiffre-là, mais réparti de façon, épisodique. Il y a des années où vous avez une dizaine de condamnations à mort, parce qu'il y a eu un événement politique important dans la ville, et puis d'autres années, vous pouvez rester 20 ans sans condamnation à mort. Alors, il y a des endroits où il y a plus de condamnations à mort, la Normandie, parce qu'on a des sources comptables qui nous montrent le bourreau et la façon dont il est payé. La Normandie est un peu particulière, tout de même. Fin 14e, début 15e siècle, c'est la guerre de 100 ans, et il y a là des condamnations à mort liées aussi au statut des gens qui sont condamnés, qui sont au pain du roi, pour la plupart. On y reviendra sans doute, c'est-à-dire qu'ils sont très pauvres. Et la solution, c'est soit de les bannir, soit de les exécuter. Étant donné que quand on est en prison, au Moyen-Âge, on paye le gîte et le couvert. Ceux-là sont incapables de le payer. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc, on a parfois des chiffres un petit peu plus élevés, mais sachez quand même qu'il s'agit beaucoup des hommes et très peu des femmes. Ça, je crois qu'il faut le dire dès le départ.
Oui,
très peu des femmes, forment à peu près 4%, pas plus, des grandes criminelles, c'est-à-dire des chiffres qui reviennent à peu près à ceux qu'on a de nos jours. Simplement, leur sort n'est pas enviable. Elles sont, la plupart du temps, enfouies vivantes, sous le gibet, ou dans n'importe quelle place, et éventuellement brûlées. Même si elles ne sont pas hérétiques, c'est le bûcher, parce que les femmes ne sont quand même que très peu pendues, en tout cas, un petit peu au XIVe siècle, très peu, mais au XVe siècle, on commence à avoir des pendaisons un peu plus fréquentes pour les femmes. Donc, on y pend aussi beaucoup des animaux.
Oui, alors ça, je dois dire, il faut que vous nous expliquiez ça, parce que c'est à la fois
incroyable
et
beaucoup.
Pittoresque.
Ah ben oui, c'est-à-dire que les animaux sont responsables d'accidents. Les porcs en particulier, mais aussi les chevaux et d'autres animaux domestiques. Mais surtout les porcs qui divaguent dans les rues, ils sont, et ou bien qui viennent manger les enfants, parce qu'ils dévorent les porcs. Toute la chair, donc...
Ils sont omnivores, ils mangent tout.
Voilà. Donc, les porcs sont pendus parce qu'ils sont condamnés pour accident. L'accident est considéré à l'époque médiévale comme un homicide criminel. Voilà. Donc on pend au gibet des animaux, et les fouilles actuelles montrent très bien la présence de ces carcasses, en particulier en Europe centrale, où on est très avancé sur l'étude des gibets, beaucoup plus qu'en France.
Donc, tout ça est très étonnant. S'agissant des femmes, vous nous précisez toutefois que ce chiffre de 4%,
oui, c'est approximatif.
Oui, voilà. Mais ne permet pas d'éclairer le fait qu'elles peuvent être impliquées dans un certain nombre de procédures, mais que comme on est dans une société de l'honneur et donc éventuellement de la vengeance et de la vendetta, au final, devant le tribunal, ce qu'on retrouve, ce sont les hommes qui sont venus venger l'honneur de la famille ou de la lignée.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ça ne nous permet pas d'éclairer justement, peut-être avant de se plonger dans le judiciaire et dans la procédure elle-même, d'écrire un peu la façon dont est organisée la société?
Alors la société est une société de l'honneur, vous l'avez dit, et je pense l'avoir démontré depuis 40 ans. Voilà, je ne cesse de le répéter, mais ça a été long, vous savez, à faire accepter. Hein. Une société de l'honneur qui ne concerne pas seulement les nobles et les élites bourgeoises. C'est ça qui est important. Ça concerne aussi tous les groupes sociaux, depuis le valet, le laboureur, le tisserand, qui est déjà un degré supérieur. Et ce sont des gens qui ne supportent pas l'injure quand elle diffame leur corps, leur renommée, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ce qu'on appelle la fama. Les textes appellent la fama, la renommée, parce que cette renommée, elle n'existe que par les yeux des autres. C'est une société où l'interconnexion des êtres est très forte. Tout le monde se connaît dans un rayon de 30 km. Et la renommée se propage. Donc, si vous êtes injurié en public, c'est ça qui est important, en public. Et si vous ne sortez pas le petit couteau à trancher le pain pour venger le fait qu'on vous ait traité fils de putain, votre mère va devenir putain aux yeux des autres. Et elle va partir dans le bas de la société. Et votre sœur peut aussi être appelée fille de putain, ribaude. Et ça, c'est une injure qui doit être vengée. J'ai toujours, je cite souvent cette lettre du bailliage de Vermandois. Vous voyez qu'on est dans le nord du royaume. Et pas seulement dans le sud, on imagine que l'honneur c'est toujours le sud, mais non.
Il n'y a pas que la Corse.
Mais non, bien sûr que non. À cette époque, le nord est concerné par l'honneur aussi bien que le sud, et les Flandres, devrais-je dire, sont parmi les régions où l'honneur est à vif. Le bailliage de Vermandois, donc on est au nord, deux frères finissent par venger l'honneur de leur sœur, qui avait été vilipendiée par un dénommé Longuepanse, souteneur, évidemment. Elle est quoi? Elle est servante dans une auberge, dans une taverne. S'il ne la venge pas, elle devient une fille commune.
Mais c'est comme si on acquiesçait, là.
Voilà. Donc on a ce système, si vous voulez, extrêmement mécanique, presque, hein, de la vengeance qui doit être faite en public. Sinon, ça ne marche pas.
Donc là, on est dans ce qu'on pourrait appeler un système de justice horizontale,
oui,
où on se fait justice soi-même, et petit à petit, les institutions tentent d'y remédier, parce que bien évidemment, vengeance contre vengeance, c'est moins sympa que don contre don, et on n'en
voilà,
fait plus.
Tout à
alors
fait.
Comment cela se met-il en place, et quelles sont les solutions successives?
Alors, ça se met en place à partir, on va dire, du XIIe siècle, grosso modo, mais bon, j'aime pas, si vous voulez, les coupures franches, parce que ça n'est pas tout à fait juste. Hein. Je mets en place à partir du XIIe siècle, ce qu'on appelle la procédure inquisitoire, sur laquelle nous vivons toujours d'ailleurs, c'est-à-dire une procédure d'enquête par témoin, avec un recul des ordalies, même si les ordalies n'étaient pas très fréquentes. Hein. Dominique Barthélémy l'a très bien montré, les ordalies, c'était tout à fait exceptionnel. C'est quand on ne peut pas arriver à vraiment trouver un coupable ou pour des crimes extrêmement graves, en particulier l'adultère. Et donc, on a le recours à l'ordalie vraiment de façon rare. Mais elles sont quand même condamnées par le 4e concile de Latran en 1215. Et on a Saint-Louis, puisque moi je m'intéresse surtout au royaume de France, qui reprend, si vous voulez, au XIIIe siècle, tous ces éléments qui ont été mis en place progressivement par les théoriciens, qui redécouvrent le droit romain. À partir, on va dire, de la fin du XIe siècle, on voit le droit romain se propager très rapidement dans toutes les villes du Midi, et ça, ce sont les recherches les plus récentes quand même, aussi dans les villes du Nord et dans l'entourage du roi de France. Dans l'entourage du roi de France, qui s'entoure, de bien avant Philippe le Bel, de spécialistes du droit romain. Procédure d'enquête, recours au témoignage, procès écrit. Qu'est-ce qui a facilité cela? L'hérésie. On ne peut pas comprendre la procédure et son développement sans refaire allusion à l'hérésie, dite des cathares, où Innocent III, grand pape, hein, à la jointure du XIIe et du XIIIe siècle, développe justement cette idée. Hein. Et cette idée, elle est mise en place, bien sûr de façon progressive, mais aussi par des textes, des bulles pontificales et, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ordonnances royales par la suite. Donc, le procès doit être écrit, il doit y avoir des témoins, il doit y avoir une enquête. Et c'est le mot enquête qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas auparavant des enquêtes. Hein. À l'époque carolingienne, il y avait déjà des enquêtes. Mais là, ça devient systématique. Et surtout, Saint-Louis crée le Parlement de Paris.
Alors, il crée le Parlement de Paris. Expliquez-nous ce qu'est le Parlement de Paris.
Alors, le Parlement de Paris, c'est le tribunal supérieur qui juge en première instance pour un certain nombre de cas et un certain nombre de personnes privilégiées, dont les nobles et certains clercs, mais surtout qui juge en appel. Et faire appel au Parlement de Paris suppose que ce Parlement, donc, qui est dans l'île de la Cité, hein, qui siège dans l'île de la Cité, est le lieu où vont se construire les pratiques de la justice.
Car il y a comme c'est une cour d'appel,
oui.
Tantôt elle dit ça s'est bien déroulé voilà. Dans telle cour
tout à fait.
De la province, et tantôt non, il aurait fallu faire comme ça. Et petit
voilà.
À petit, ça édifie une théorie.
Tout à fait. Donc si vous voulez, parce qu'il y a très peu de lois pénales en France, très peu. Donc c'est pas par le législatif qu'on a construit le pénal. On l'a construit par la pratique. Et dans la pratique, c'est le Parlement de Paris qui est la cheville ouvrière où se dit la justice et où se répercute dans les tribunaux royaux des bailliages et sénéchaussés qui sont le premier échelon, y compris même aussi dans les justices seigneuriales. Car qui peut condamner à mort ? Qui peut condamner à mort ? Tous ceux qui détiennent la haute justice dans le royaume. C'est-à-dire les seigneurs, un certain nombre de seigneurs, qui d'ailleurs l'affirment en construisant des gibets où ils ne pendent pratiquement personne, mais c'est une limite, limite de juridiction, pour marquer la prérogative, les villes, très importantes, et elles sont importantes dans mon livre, je crois, pour montrer à quel point elles ont résisté justement au pouvoir royal, les villes qui ont le droit de vie et de mort, sous la forme des échevins ou des consuls, ça dépend si on est dans le nord ou dans le midi, des chartes de franchise donnent des droits judiciaires aux villes, que le roi d'ailleurs va rogner petit à petit, justement.
Bon. Mais alors qu'au début, si j'ai bien compris, ce sont des chartes qu'elles s'octroient, et à la fin, ça devient des privilèges royaux.
Voilà.
On ne change pas une virgule, donc c'est accepté, mais entre-temps, c'est devenu un privilège royal.
Voilà, exactement. Exactement. Et par ailleurs, le Parlement ne fait pas, mène la vie dure aux villes, qui, d'ailleurs, condamnent peu à mort. J'ai pris l'exemple de Douai, qui a été française pendant tout un temps, et qui est devenue bourguignonne, mais peu importe. Douai... finalement, il y a très peu de condamnations à mort quand on regarde les chartes, enfin les documents édités par Espinas, on voit très peu de condamnations à mort. Et quand il y a une condamnation à mort, elle est la sanction, c'est la décollation. Et je me suis posé la question, finalement, sinon c'est le bannissement. Hein, les villes bannissent beaucoup, elles condamnent peu à mort. Et les études ont montré, Saint-Quentin par exemple, l'étude de Sébastien Hamel, montre très bien que finalement au XIVe, XVe siècle, la ville condamne peu, et ceux qui condamnent davantage, c'est le prévôt royal, un petit peu plus, quoi. Voilà, qui s'est installé là, qui surveille de tout. Vous voyez, la justice royale est présente.
Alors ça, c'est un point très important dans l'ouvrage, c'est qu'on a tendance avec... notre regard rétrospectif, et certainement à raison, nous considérons que tous les principes d'une justice plus centralisée, avec une procédure établie, ce sont des garanties offertes en quelque sorte aux justiciables, et que ça devrait donc mieux se passer. Ce qui est certainement vrai d'un certain point de vue, mais lorsque l'on se plonge dans la pratique concrète et réelle telle que vous l'avez fait, on constate que l'ancienne méthode assise sur une série de compromis, de transactions et autres, permettait en fait souvent de trouver un autre accord et une autre solution à cette perte de face que la mort.
tout à fait. C'est, alors, bon, évidemment, il y a quand même... alors, il faut toujours être prudent. Hein. Il existe ce qu'on appelle actuellement le chiffre noir hein, de la criminalité. Donc, on ne peut pas savoir exactement tout ce qui s'est passé. Et je ne saurais jamais combien de maris ont tué leur femme, par exemple, parce que ça, c'est du privé. Bon, mais... essayons de réfléchir avec ce qu'on a comme source. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de transactions. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de transactions, y compris devant notaire, alors que normalement, c'est interdit au pénal, à partir du début du XIVe siècle. Ces transactions, on le voit tout simplement à quoi ? Prenons un exemple. La justice seigneuriale de Bressuire, dont on a conservé le chartrier, qui a été étudié par Muriel Bonneau dans une thèse qui ne sera pas publiée certainement, on a une centaine d'années au cours du XVe siècle. Trois condamnations à mort.
Et pourtant, j'imagine, beaucoup de crimes qui auraient permis une condamnation.
Voilà, tout à fait. Et je vais aller plus loin. On y reviendra sans doute. Je lui ai dit, mais attendez, vous n'avez pas regardé du côté des lettres de rémission, c'est-à-dire des lettres de grâce que le roi peut accorder à partir du début du XIVe siècle. Elles sont publiées pour cette région-là, donc c'est facile. Elle l'a fait. 14 lettres de rémission. Ça veut dire qu'il y a eu des homicides, parce que c'est beaucoup pour X, dont on parlait tout à l'heure, à l'issue d'une vengeance. Pratiquement, je crois que c'est 13 sur 14 qui concernent ce type de crime. Donc, comment ça aurait été résolu ? S'il n'y avait pas eu un appel au roi. On reviendra sur ce phénomène, me semble-t-il, parce qu'il est très important. Mais comment ça aurait été résolu ? Eh bien, par des transactions. Mais des transactions qui supposent des palabres, qui supposent du temps et qui supposent de l'argent. Des sommes beaucoup plus fortes que ne coûte la lettre de rémission, certainement. Donc on a parallèlement une justice qui continue à transiger. Qui continue à transiger, mais qui en même temps, et vous le voyez, au XVe siècle, utilise d'autres procédés, légaux, entre guillemets. Hein ? Alors, finalement, vous voyez ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'expliquer le moment où la peine de mort va passer dans le public, dans la gestion publique de la justice. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire, on est aux origines publiques de la peine de mort.
Oui, car si je ne me trompe pas, ça s'appuie sur le principe de droit romain que tout crime doit être puni.
Absolument.
Alors qu'auparavant, n'ayant pas de conscience de cette chose publique, on pouvait s'arranger et
tout était, en quelque sorte, oublié.
Pour aller dans votre sens, si je comprends bien, d'interpénétration entre des pratiques anciennes, coutumières et des procédures juridiques plus étatiques et cadrées, il me semble que l'exposé de la façon dont se déroule le procès, en quelque sorte, et l'enquête, est assez éclairant, notamment cette façon dont les juges partent de désirs de condamnation extrêmement forts pour petit à petit arriver à quelque chose d'assez raisonnable et qui relève de la transaction, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'au sein même de cette justice qui parle de lèse-majesté ou de trouble à l'ordre public, on en finit quand même par quelque chose qui ressemble à ce qui se faisait avant.
Alors, ça se termine par une amende en général ou par rien du tout ?
Par rien du tout.
Alors,
aussi.
Ben oui, ça peut. Alors, si vous voulez, au Parlement, vous avez la caricature en quelque sorte de ce qu'est un procès. J'ai dit la caricature parce que ça force le trait. Hein, c'est pas du tout dans mon esprit péjoratif. Hein. Mais au Parlement, les avocats vont s'emparer du cas et palabrer. C'est eux qui palabrent. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué la palabre, si vous voulez, d'ami à ami pour dire la parole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont démonter la renommée de l'adversaire. Si bien qu'on ne peut absolument pas, sauf précaution extrême, travailler sur la déclinaison d'identité en pensant qu'elle est totalement exacte. Je cite toujours le cas de Blanche d'Overbruck. On est au milieu du 15e siècle. Elle a probablement, avec la complicité de son amant Pierre de Louvain, assassiné Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne. Elle obtient une lettre de rémission du roi. Parce que Pierre de Louvain est un grand capitaine, il a besoin de lui pour la conquête de la Normandie. On est en 1449. Donc, le roi va passer outre et il va donner la lettre de rémission. Mais les avocats, c'est ça qui est très intéressant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire qu'elle est la fille d'un prêtre concubinaire, que son père était couturier, que son père était, des métiers du sang, du métier de la peau, vous voyez, qui sont des métiers vils. Elle est noble. Sa noblesse est surplombe celle de Guillaume de Flavy. Et alors, je vais prendre, c'est une expression un peu vulgaire, mais c'est dans le texte, c'est pas moi je prends des précautions,
oui,
entre guillemets.
Il y a des guillemets.
Hein. Et en plus, elle est forte sur la bouche et pisse comme un homme. Voilà le texte. Voilà le texte, je n'invente rien. C'est d'une crudité extrême. Alors, il va demander quoi, l'avocat du procureur du roi? On va dire, elle est criminelle de lèse-majesté puisqu'elle a fait tuer un capitaine du roi. La lèse-majesté, c'est la mort, par décollation, par décapitation. Ou au moins qu'elle soit bannie, ou au moins qu'elle entre en religion, donc dans un couvent, qu'elle soit envoyée dans un couvent, qu'elle ne porte jamais les habits de deuil, qu'elle ne se remarie jamais. Et enfin, qu'elle ait une amende honorable. Je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus, mais je vais dire tout de suite aux auditeurs qu'elle s'est remariée 3 fois. Voilà. Donc, on en arrive à cette amende honorable, sur laquelle je veux insister, d'autant plus que le tableau que nous avons conservé, un des rares tableaux que nous ayons conservé, c'est justement un événement du milieu du XVe siècle aussi, aux Augustins, c'est-à-dire pratiquement à l'Institut ici. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une amende honorable? C'est le fait de présenter à genoux, en habit de pénitent, sans ceinture, sans chaperon, sans chausses, nu-pieds donc, de se mettre à genoux devant celui qu'on a offensé et de lui crier merci, c'est-à-dire pardon. Mais la grande invention du Parlement de Paris, géniale invention, alors qu'on explique partout dans les manuels de droit que c'est une peine archaïque, mais non, c'est une peine adaptée à une société de l'honneur. La grande invention du Parlement de Paris, c'est de demander l'amende honorable. Et cette fois, on la prête à qui en premier? Au roi. Au juge du tribunal. Et ensuite seulement à la partie lésée. C'est-à-dire que le crime a d'abord offensé la res publica, la chose publique, avant d'offenser la partie lésée, c'est-à-dire la famille de la victime et toute la parenté. Mais c'est un renversement colossal qui inscrit du coup la peine, non pas capitale, là, la peine de reconnaissance du fait dans la gestion publique. C'est fondamental. Et ça, alors, cette peine d'amende honorable est accompagnée d'une amende profitable qu'on discute aussi. On part de sommes impossibles à payer pour arriver à des sommes totalement raisonnables qui, d'ailleurs, ne seront pas toujours payées. Et alors, j'ai le cas d'un autre. Alors là, j'étais sidérée. Vous savez, parfois, on regarde les sources et on se dit, attendez, on a mal lu, quoi. On a mal lu. D'un cas d'un grand seigneur qui avait offensé des sergents royaux, condamné pour lèse-majesté. Le procès se déroule au Parlement. C'est à peu près à la même époque. Hein. C'est dans le X222. L'autre est dans le X224. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on remet au lendemain. Et le lendemain, le greffier écrit qu'un accord a été trouvé entre les parties, et qu'il y a eu assurement, c'est-à-dire promesse de non-agression, jurée devant le Parlement de ne plus considérer
que le conflit est,
voilà,
est fermé.
C'est terminé, quoi. Voilà, de ne plus agresser. Voilà, je cherchais le mot.
Voilà,
de ne plus agresser. C'est un pacte de non-agression, l'assurement. Alors l'assurement, c'est pareil, on a dit, mais l'assurement, ça a disparu à la fin du XIIIe siècle. Mais non, j'en trouve plein, moi, au Parlement de Paris. On s'assure à la coutume de France. Voilà. Et devant les juges, et il y a toute une série du Parlement sur laquelle on travaille peu, qui est la série des accords, où on voit beaucoup d'assurements. C'est-à-dire que parfois les juges quittent leur robe de juge pour devenir arbitres.
Autre fait qui est stupéfiant avec nos yeux d'aujourd'hui, ce sont ces condamnations à mort qui sont répertoriées, proclamées, et qui finalement ne sont pas menées jusqu'à terme, car en quelque sorte, la condamnation symbolique suffit à laver l'affront.
Oui, comme
la partie adverse a été humiliée en quelque sorte par cette condamnation, eh bien, peu importe qu'il soit pendu pour de vrai ou pas.
Oui, absolument, absolument. Et ça m'a amené à me tromper. Il y a des choses qui sont fausses dans ma thèse, vous voyez. Si je devais la rééditer maintenant, je changerais peut-être. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un problème historiographique. C'est très intéressant. Le problème historiographique, c'est que on croyait qu'il y avait beaucoup de condamnations à mort. Quand vous travaillez sur un registre d'écrou, comme je l'ai fait pour le registre de la fin du XVe siècle, qui a été conservé. Et que vous voyez des croix dans la marge, vous vous dites, celui-là, il a été condamné à mort. Et puis quand vous voyez qu'il y a, effectivement, un homme qui était un gros artisan de Paris, hein, qui avait récidivé plusieurs fois dans des crimes divers et variés, il est condamné à aller jusqu'au gibet, la corde au cou. Mais il n'a pas été pendu. Et ces croix, il a fallu que j'attende de travailler avec Alfred Soman, spécialiste du XVIe siècle. Là, il y a beaucoup de registres d'écrou pour le XVIe siècle, qui m'a dit, mais Claude, là, non, pas du tout. Pas du tout. C'est croix. Ça veut dire que la prochaine fois qu'ils seront incarcérés, ils risquent la condamnation à mort. Mais c'est même pas sûr que la prochaine fois, ils seront condamnés à mort.
C'est-à-dire que c'est un peu comme un cahier d'écolier
où on
note le nombre de croix et la sanction
voilà.
tombe qu'à la troisième.
Voilà, exactement. C'est exactement cela, vous voyez. Et moi, je n'avais pas réalisé, j'en avais si peu que j'en ai ajouté. Alors qu'en fait, il y en a trois hein, pour le registre. Et c'est tout. Et on est à Paris, donc c'est un peu spécial.
Alors peut-être que... On a vu ce que ça révèle de l'organisation de la société. Peut-être faut-il aussi évoquer le rapport à la mort. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment que plus on recule dans l'histoire, plus on a un rapport assez, j'allais dire, décontracté à la mort. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent ça comme quelque chose vraiment en ultime ressort et avec lequel ils sont même très mal à l'aise. Pouvez-vous nous développer ce fait-là?
Oui, parce qu'il y a une crainte énorme, c'est la malmort. Qu'est-ce que c'est que la malmort? C'est de mourir sans y avoir été préparé. Or, il a fallu attendre 1397 et l'intervention de Jean Gerson, le grand théologien, pour que la confession soit acceptée pour les condamnés à mort. La communion, on n'en parle pas, sauf pour les grands, à partir du règne de Louis XI. On est très en retard dans le Royaume de France là-dessus, hein, parce qu'en Italie, les condamnés à mort sont mieux entourés par des confréries. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que la peine de mort est acceptée par l'Église. Donc, c'est compliqué, là, vous voyez, parce que c'est à la fois un progrès contre la malmort, mais c'est aussi, de la part de l'Église, le fait d'accepter cette sanction. Et pour moi, c'est vraiment une alliance, si vous voulez, de l'Église et de l'État qui se fait à partir du XIVe, la fin du XIVe siècle, justement. La malmort, c'est donc, je reviens là-dessus, le fait de mourir de façon soudaine, sans avoir été préparé. C'est la hantise des hommes de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont des amulettes? Pourquoi est-ce qu'ils croient à la sorcellerie, les hommes de guerre? Parce que, effectivement, il faut trouver un moyen pour se protéger contre cette mort soudaine qui risque d'arriver sur le champ de bataille. Puis c'est la même chose pour les condamnés à mort. C'est la même chose. Et c'est une hantise qui fait que, on va dire que les prédicateurs en jouent, si on veut chercher des mauvaises morts, justement, on en trouve dans les exemplats, dans les petits récits que les prédicateurs distillent dans leurs sermons, hein, montrant que finalement, ben, il faut se préparer à la mort. Quoi. Voilà, c'est la grande idée, et d'autant plus qu'on est au XIVe, XVe siècle où la mort est omniprésente.
Et une très forte crainte, si j'ai bien compris également des juges, de condamner un de ses semblables, de ses prochains, dirions-nous, dans un langage plus chrétien, alors que... Enfin, la crainte de l'erreur judiciaire, en quelque sorte.
Absolument.
Car tuer n'est pas permis, et à mauvais escient, encore moins.
Voilà. Alors, vous savez, vous êtes... Là, vous touchez un point essentiel de la compréhension du fait de condamner à mort. Est-ce qu'on a le droit de condamner à mort un innocent ? Non oxides, déjà, pour commencer. Tu ne tueras pas. C'est le décalogue. Comment est-ce qu'un juge peut l'appliquer ? Déjà, pour commencer. Et à plus forte raison, s'il n'est pas sûr de ce qu'il va... de que le condamné est coupable. Alors là, on revient à l'hérésie. On revient à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Et c'est là qu'on a levé le verrou. Innocent III, mais aussi les théologiens. Alain de Lille, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les hérétiques, qui étaient hostiles à la peine de mort. Les cathares étaient hostiles, enfin les cathares entre guillemets, hein, les vaudois étaient hostiles à la peine de mort, justement, parce que pour eux, c'était revenir à « tu tueras, hein, tu tueras ». Et ils répondent, Innocent III répond, mais ça n'est pas le juge en tant que personne privée qui juge, c'est la loi avec un grand L. C'est la loi, et on retrouve là l'apport du droit romain, évidemment, bien sûr, et du droit canonique, mais du droit romain surtout, et le Saint Thomas, enfin, dans la Somme théologique, reprend cette idée. Il reprend cette idée en disant, mais oui, le prince peut condamner à mort parce que c'est la loi qui condamne. Alors, problème de l'innocence. Est-ce que le juge ne peut pas se tromper ? Deux façons de ne pas se tromper. La première, c'est de juger en ayant Dieu devant les yeux. On est quand même dans une période où la croyance est viscérale et on met au-dessus du tribunal, du siège du tribunal, la crucifixion. Beaucoup de tribunaux, y compris des petits tribunaux, ont une crucifixion. Et il y a une absolument superbe au Parlement de Paris.
Donc c'est pour rappeler qu'un innocent peut être condamné en quelque sorte.
Bien sûr. Hein ? Faut quand même pas oublier qu'on a préféré Jésus à Barabbas. Hein ? Donc, on a crucifié un innocent, et ils ont cela au-dessus de la tête, et le retable, entre guillemets, puisque ça n'est pas un retable, mais une crucifixion, un tableau, simplement, mais qui a une construction de retable, et qui est une des pures merveilles du musée du Louvre, allez voir absolument, même si, justement, là, si on rejoint un peu Notre-Dame de Paris, il n'a pas été restauré, lui, hein, il est quand même assez sale. Je ferme ma parenthèse et c'est un appel du pied. Il y a là, effectivement, le Christ au centre, Charlemagne sur la droite du tableau, donc à gauche en fait, mais à droite quand on le regarde, et à gauche, un roi de France, Saint-Louis Charles VII, avec le portrait de Charles VII, et Jean-Baptiste tenant l'agneau de Dieu. Donc on a, et le paysage de Paris derrière, qui est absolument superbe. Donc on a cela au-dessus de la tête, on a Dieu devant les yeux. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de se garantir. En reprenant justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le processus de l'enquête. Donc, si vous voulez, c'est ce que dit Thomas d'Aquin, un juge qui a bien jugé, en ayant suivi toute la procédure, s'il a fait appel à des faux témoins, en toute bonne foi, eh bien, il n'est pas responsable.
Oui, c'est le faux témoin qui est responsable.
Voilà. Et voilà. Donc, c'est là, il faut surtout éviter les faux témoins. Et c'est ce que dit le Parlement de Paris. Regardons comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a bien jugé ? Est-ce qu'on a bien condamné ? Est-ce qu'on a bien exécuté aussi ? Est-ce qu'il n'était pas trop tôt, pas trop tard ? Est-ce qu'on a procédé de nuit ou de jour ? Est-ce qu'on a obtenu aussi la vérité par des procédés qui ne sont pas légaux. La torture doit être humaine, pas inhumaine, jusqu'où, évidemment, le problème est là. Mais, vous savez, il y a cette phrase de l'avocat du procureur du roi que j'aime beaucoup, que je cite en tête dans des chapitres. Quand on veut parler, je la cite de mémoire, hein, quand on veut parler de la mort d'aucun, il faut procéder bien mûrement, c'est-à-dire de façon raisonnable, de façon mûrie, et savoir la vérité du cas, c'est-à-dire, effectivement, aller jusqu'à l'aveu. Et l'aveu suppose, éventuellement, la torture.
Toujours est-il que on découvre à travers les arguments, les arguties, les théories autour de la responsabilité au nom du juge et de sa responsabilité dans l'acte de donner la mort, que ce n'est donc absolument pas anodin pour les institutions de cette époque. Et arrivé à l'issue de la lecture, une des conclusions qu'on peut en tirer, au-delà de la richesse historique, c'est que ça n'a jamais était une question anodine, en réalité, non. Que la condamnation à mort.
Non.
Jamais.
Jamais. Jamais. Et je crois que, si vous voulez, les juges en sont parfaitement conscients. Alors, ça peut être, justement, ça peut être perverti, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que des juges ont pu, pour se venger de quelqu'un condamné à mort, sous la pression de tel ou tel, les juges locaux, souvent. Mais au Parlement de Paris, non. Et on condamne très peu à mort au Parlement de Paris, justement. J'ai fait des calculs. Très, très peu à mort. On essaye de voir, effectivement, les tenants, les aboutissants, et puis on procède, comme on l'a dit tout à l'heure, éventuellement même à des restaurations d'honneur ou des transactions par des accords, hein, qui sont des accords légaux. Hein. Donc on a... Alors, bon, seulement le problème est là. Qui est concerné? Tout va bien quand vous êtes un homme d'honneur, quand vous avez une bonne renommée. Les nobles, d'abord, qui disent « Attendez, vous allez me condamner, mais moi, c'est pas possible, parce que je suis un noble. » La bonne renommée, vous savez, ça concerne aussi les non-nobles. Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est de bonne renommée quand on a effectivement un métier, quand on a un travail, quand on a une maison, une femme, des enfants, enfin, ça c'est parfait. Hein? On est un homme d'honneur. Et là, on peut effectivement être sauvé. Alors, on peut l'être aussi par la lettre de rémission, par la grâce que ces gens de bonne renommée peuvent demander et qu'ils obtiennent en général. Les lettres de grâce se multiplient à partir du XIVe siècle, mais surtout à partir de 1350. C'est ce que j'appelle le temps vivant de la grâce. Partout, pour tous, pour n'importe quel crime, on peut obtenir une lettre de rémission. Quand on est un homme d'honneur. Quand on peut payer la lettre, bon, je répète que c'est moins cher que des transactions. Quand on a commis un crime, on a aussi quelques dédommagements à faire, hein, à la victime et à la parenté, surtout de la victime, si la victime est tuée. Et donc, on a là, vous voyez, tout un panel de résolutions qui fait que, d'ailleurs, le pouvoir royal en sort grandi. Il en sort grandi parce que ça n'est pas une faiblesse du pouvoir royal que de gracier. Au contraire, c'est faire entrer dans le filet de la justice des crimes qui, jusqu'alors, étaient uniquement résolus par des transactions. C'est le cas, justement, de l'homicide commis pour réparer un honneur blessé. Hein? Donc, on a un panel qui se développe. Mais, en même temps, il y a des exclus de ce panel. Et les exclus de ce panel, ce sont ceux qui sont... Alors... Ceux que Bronislas Guéremec appelait les marginaux, moi j'aime pas trop ce terme qui est quand même très connoté historiographiquement, mais qui sont des gens habitant partout, vagabonds, des étrangers de passage, des gens qu'on veut exclure pour des raisons diverses et variées, que la communauté veut exclure pour des raisons diverses et variées. Pourquoi la communauté? Parce que la communauté est d'accord. Pour moi, la peine de mort... Elle est fille du lynchage, hein, justement. parce qu'elle concerne des gens qui déplaisent à la communauté, qui agit en accord avec le juge local qui a décidé de condamner à mort.
D'où son caractère public.
Mais bien sûr, et ritualisé. Et ritualisé. Est-ce que vous avez déjà vu des rituels sans public? Pas ceux-là, en tout cas. Le public est là, sur le passage, qui doit toujours être le même. À l'heure d'affluence, si possible un samedi, un jour de marché, quand il y a grand planté de gens, dit Beaumanoir. Et le public va accepter ou refuser. Jusqu'au bout, il peut y avoir un miracle. Jusqu'au bout, le public peut dire que la corde est pourrie, que l'échelle est trop courte, que le bourreau agit mal et sauver le condamné. Alors, je cite dans le livre cette petite lettre de... Ce qu'on annonce, c'est une plaidoirie, peu importe. On est à Saint-Quentin et il y a une condamnation à mort. Je suppose que l'homme devait être très beau. La femme du geôlier, où il l'a soudoyé, la femme du geôlier lui dit « Tu n'as qu'à crier à tel endroit où il y a beaucoup de monde. » Clergie, clergie, c'est-à-dire qu'il est clair, tonsuré, et par conséquent, le public va te reprendre. Ça n'a pas marché. Hein? Bon, mais l'anecdote est amusante. Ça veut dire que on savait très bien que l'endroit où il y avait un public important, en nombre, si on criait avec l'énergie, il y avait immédiatement une intervention et on retirait l'homme du tombereau où il était juché pour aller jusqu'au gibet. Là, je répète, ça n'a pas marché. Ça n'a pas non plus marché pour un deuxième cas qui est très amusant et qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les animaux. On est à Reims, cette fois, vers 1430, dans une enquête de juridiction, peu importe, et l'abbaye de Saint-Rémy a condamné à mort un dénommé Bédelay. Bédelay, c'est un grand bourgeois de Reims, et il a beaucoup d'appui. Il est riche, il est bouché, il a de l'argent, une certaine renommée, mais il a un inconvénient, c'est que il viole beaucoup les petites filles. Donc, du point de vue du public, là, il y a effectivement lynchage possible. Les amis de Bédelay, sur le tombereau, qu'il conduit au gibet, essayent de lui substituer une truie dans un sac. Enfermé dans un sac. Mais la foule est là, et à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, elle remet Bédelay à la place de la truie.
Au fond, c'est la même chose que le roi, qui peut gracier, peut condamner.
Voilà. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Le peuple a un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense dans l'exécution capitale. Alors, c'est pas vrai à Paris où il y a beaucoup de crimes politiques, et là c'est le roi qui est maître, hein, mais les crimes politiques se terminent d'ailleurs par une décapitation, et pas par une pendaison. Mais pour les pendaisons, en particulier locales, dans les justices de bailliage, de sénéchaussée, ou bien, même à plus forte raison, de seigneurie ou de ville, le peuple est présent. D'ailleurs, il est rameuté par les crieurs. Alors, au bout du compte, il reste les autres, ceux qui ne peuvent pas être vengés et qui servent de bouc émissaire, en quelque sorte.
Oui, eux n'ont pas les réseaux de relations qui permettent dans cette société de trouver les appuis nécessaires. À l'issue de ce travail, lorsqu'on examine les différents acteurs dont l'action conjointe aboutit ou non à une condamnation à mort, puisqu'il faut, on a tendance généralement à regarder le monde médiéval avec nos yeux d'aujourd'hui, à votre avis, on peut essayer de faire le travail inverse. Quel serait le regard d'un homme de cette époque sur la nôtre et sur ce système judiciaire?
Oui, le système judiciaire... je pense quand même que, d'abord, la peine de mort a été abolie, comme vous le savez, en 1981.
En France.
Et il y a cette très belle phrase de Robert Badinter que je cite en exergue, où justement il reprend l'idée de la rédemption quelque part, jusqu'au bout. L'homme peut être sauvé parce qu'il peut se perfectionner à propos de la condamnation à mort du dernier condamné, donc Philippe Maurice, qui a d'ailleurs écrit une thèse magnifique sur l'histoire médiévale. Donc, quel regard porteraient ces hommes du Moyen-Âge ? Ils penseraient que nous sommes finalement d'une certaine façon laxistes. C'est paradoxal, hein, ce que je vais vous dire. Laxistes en ce sens que... L'injure n'est jamais vengée, ou très peu vengée. Moi, j'ai compris Zidane dans sa réaction. C'est une réaction de médiéval. Et la médiéviste que je suis, j'ai tout de suite compris. Et, alors évidemment, elle est liée à l'aspect méridional aussi. Hein, mais bon, au Moyen-Âge, il serait arrivé de Paris ou de Normandie. Il aurait parfaitement compris cet homme du Moyen-Âge. Moyennant quoi, je vais tempérer aussi les ardeurs. C'est-à-dire que c'est une société extrêmement hiérarchisée. Il vaut mieux être un homme d'honneur que ce que Nicole Aurem, grand théologien du XIVe siècle, appelle les banoses. Car quand même l'idée, c'est que dans cette société, il y a ceux qui peuvent faire partie de la société politique, les hommes et les femmes d'honneur, mais surtout les hommes, et puis ceux qui en sont exclus dès l'enfance. Ce qu'il appelle les banoses. Et puis à l'inverse aussi, il y a les saints, qui, eux, par leur sainteté, sont aussi des exclus de la société. Mais ils vivent tout seuls, en autarcie, en quelque sorte. Les banoses, ils sont gibiers de potence. Parce que dès l'enfance, ils se sont pervertis. Ils ont suivi les tavernes, fréquenté les femmes diffamées, volé, joué aux dés. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, chevauché aussi, les hommes comme hommes d'armes, devenir carme éventuellement. C'est pas très bien vu non plus. Intéressant. Dès l'enfance. Et c'est quand même... Ça veut dire qu'ils sont, ceux-là, considérés comme incorrigibles. Le terme n'est pas de moi. Il est du droit canonique, repris par les juges, justement, du Parlement, par le prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville. Ils sont incorrigible, perdu pour la société. Donc ceux-là, ils peuvent être vengés. De toute façon, ils n'ont aucun bien et personne, effectivement, autour d'eux. Ils ne font pas partie de réseaux, de solidarité, comme le sont les autres. Et il faut quand même terminer sur une note peut-être un peu plus optimiste aussi, en terminant sur cet exemplum que j'aime beaucoup. Et qui court depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, puisqu'on le voit dans le livre encore des lois d'Arval à la fin du XVe siècle. C'est l'histoire d'un fils qui a volé, qui a récidivé et qui est condamné à la potence. Son père arrive et lui dit « Oh mon fils, c'est terrible, il l'embrasse, il veut l'embrasser ». Et le fils lui mord le nez. Si tu m'avais éduqué correctement, je ne serais pas là où je suis. Autrement dit, être perverti dès l'enfance, ça peut se corriger. Et là, on retrouve Thomas d'Aquin. L'homme est libre jusqu'au bout. Ce n'est pas la prédestination qui est derrière cela. L'éducation doit jouer un rôle pour rendre l'homme meilleur. Et cet exemplum repris se termine soit par la condamnation réelle à mort du fils, soit, au contraire, il est libéré et il se rachète. Voilà.
Merci beaucoup. C'est toute la destinée humaine qui est dans cette parabole. La responsabilité de la lignée et la responsabilité individuelle, finalement, en matière de justice, comme sur tous les chemins de la vie, ça se résume souvent à cela. Pour nos auditeurs, je les renvoie pour poursuivre cette exploration de notre rétrospective, de notre système judiciaire et de la place de la mort, et donc de la place que nous donnons aussi, et du prix que nous donnons aussi à la vie, Je les incite donc à se plonger dans Condamné à mort au Moyen-Âge par Claude Gauvard aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.